J'ai envie de vous demander, est-ce qu'un tel succès, comment est-ce que vous voulez expliquer?
Bah d'abord, beaucoup de talent. Je crois que c'est indéniable. Un sens de la modestie évident. Un physique de rêve. Je crois que... Non, bah merci pour cette introduction. Très honnêtement, vous avez, c'est vrai que mes livres, ça se passait plus ou moins bien, mais le succès est très récent. C'était au bout du 8e livre que quelque chose s'est passé. C'est pour la délicatesse. Il y a vraiment eu un... Et ça s'explique pas du tout. D'ailleurs, je comprends toujours pas ce qui se passe, parce qu'il y a... Il y a un tel bouche-oreille, un tel phénomène sur le livre. Cet été, moi, je voyais des gens lire le livre sur la plage et je croyais que j'avais attrapé un coup de soleil ou c'était très, très étonnant. Donc, j'étais pas du tout malheureux quand je vendais moins de livres. Ça se passait assez bien. Et là, je suis heureux, voilà, de rencontrer le plus grand public. C'est pas une obsession en soi. Mon nouveau roman, par exemple, est assez différent de la délicatesse. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire ce qu'on a en soi et être le plus honnête avec ce qu'on ressent. Mais ça s'explique pas. Très honnêtement, la délicatesse, c'est l'histoire d'amour entre une veuve et un Suédois avec des recettes de risotto aux asperges au milieu et des résultats de matchs de football. Donc, a priori, personne n'aurait pu penser... Là, on est à 800 000 exemplaires. Il est traduit dans le monde entier. Il sort aux États-Unis. Il y a le film... Moi, je pensais que vraiment, ça serait très très intime. Comme parfois, je lis des papiers disant voilà les recettes du succès. Mais si vraiment on lit le livre, on pouvait pas imaginer qu'il toucherait autant. Alors, je sais pas, ça s'explique pas. Peut-être aussi le titre. On a besoin de délicatesse. Mais moi, le titre, j'ai failli le changer juste avant de le publier. Ça, je l'ai jamais dit. Et parce que je le trouvais un peu, j'avais peur qu'il soit un peu gnangnan ou bon. Alors voilà, ça s'explique pas vraiment.
Alors d'ailleurs,
peut-être que mon déclin non plus s'expliquera pas oui, après mon passage à Montpellier, la fin d'une carrière prometteuse.
On va encore essayer quand même de.
Mais il n'y a rien qui
de tirer quelque chose un peu de David Foenkinos.
Oui. Je vous laissez pas.
Mais il n'y a rien, pardon, il n'y a rien, vous disiez.
Non, il y a souvent les choses ne s'expliquent pas. Je
crois. Alors vous évoquez souvent au cours des romans, vous dites carrément, mais là peut-être que je me suis pas bien exprimé, vous envoyez en note. Est-ce que mon écriture, est-ce que ça va venir? Vous parlez de cette genèse de l'écriture. Vous demandiez d'ailleurs si ça allait être vraiment, sûrement à une époque vous êtes demandé, mais est-ce que ça va intéresser quelqu'un?
Moi, j'étais pas très non parce que je
non tout de suite ça a marché.
Non, pas du tout, ça a pas marché, mais j'étais très d'abord j'écrivais pour moi, je le montrais à personne.
Oui.
J'ai jamais pensé que ça pouvait être mon métier, ma vie, l'écriture. Mmh. Donc j'étais pas dans l'inquiétude ni dans l'angoisse parce que ça reste toujours une bizarrerie, j'ai envoyé mon manuscrit par la poste chez Gallimard, j'ai été publié il y a 10 ans donc tout ça, c'est assez étonnant. Donc là, vous faites référence effectivement au jeune narrateur des souvenirs, qui a un livre un tout petit peu plus personnel que les autres, où lui, effectivement, rêve de devenir écrivain, tâtonne.
Bien sûr.
Il est veilleur de nuit dans un hôtel parce qu'il pense que c'est là que les conditions vont être parfaites pour devenir écrivain, alors que non, il se passe rien. Il s'ennuie.
Vous dites qu'à un moment, quand même, il faut plutôt laisser venir qu'aller piocher les choses, hein. C'est...
Ben moi je suis très c'est une philosophie, c'est pas une philosophie, mais d'une manière générale je trouve que les choses doivent arriver, voilà. Donc les idées de roman, c'est comme tous les événements de la vie, hein. On peut pas vraiment les provoquer d'une manière appuyée. On peut se mettre en disposition pour les recevoir, ça bien sûr, mais lui il attend ce roman qui va être le... Et donc voilà, je l'aide un peu en le faisant en le propulsant dans des aventures un peu étonnantes qui vont nourrir son imagination, qui vont le faire avancer, qui vont le faire progresser et qui vont lui permettre peut-être d'avoir les conditions pour devenir un écrivain. Mais au-delà de l'écriture, c'est pas un livre sur l'écriture, c'est un livre sur les trois moments de vie où les choses basculent, les choses sont fondamentales. C'est un livre, la première partie, sur la vieillesse et même l'extrême vieillesse où voilà, quand la grand-mère du narrateur se rend compte qu'elle devient un problème dans le regard de ses enfants. Donc c'est un basculement d'une très grande violence quand on devient une source d'angoisse pour nos proches, surtout pour cette femme-là qui a été maîtresse de sa vie, qui a pris en charge les autres tout le temps. C'est la deuxième partie, c'est plutôt sur la retraite, tout simplement, à l'âge de 60 ans, 65 ans, les parents du narrateur découvrent cette plaine temporelle extrêmement compliquée aussi parfois à gérer pour certaines personnes.
Avec toutes les questions qui se posent.
Effectivement, donc la mère du narrateur fait une dépression. Elle était professeure d'histoire géo, c'est peut-être pas lié, mais voilà, c'est une période un peu de transition, un peu compliquée à vivre. Et puis il y a ce narrateur qui entre 20 et 25 ans, c'est toutes les questionnements de comment devenir l'adulte qu'on va être. C'est souvent une période de vie extrêmement inquiétante pour tous les. Moi je l'ai vécu, on l'a pratiquement tous vécu. On ne sait pas comment on va trouver notre place. Et lui, il s'estime être sur le paillasson de la vie normale. Donc j'ai envie qu'il rentre, qu'il puisse rentrer.
Alors c'est vrai, la vieillesse, la fin, la déchéance, on dit mais pourquoi il croit qu'il va intéresser les gens avec ça. Et pourtant, ce roman ne nous lâche pas. J'allais dire, on ne le lâche pas, c'est pareil. C'est lui qui ne nous lâche pas.
Mais ça, j'ai mis de la colle dedans.
J'ai mis de la colle, ouais, c'est ça.
J'ai mis un truc spécial.
Mais là, vous avez quand même, je sais pas si vous avez...
C'est marrant, j'ai la première fois que j'entends ça.
Ah oui, une grand-mère sympa, mais en tout cas, il y a beaucoup de tendresse de votre part pour cette dame. Qui est finalement très espiègle. Vous allez faire des bons coups avec elle. Vous allez fuir. Enfin, on va pas tout dire.
Non, on peut pas tout raconter, bien sûr. Mais je voulais vraiment pas que ça soit un livre.
Vous avez une vraie grand-mère. Vous avez une grand-mère forcément.
Non, oui, mais c'est pas. Celle-là, elle est quand même un peu, elle est romancée. Hein. Elle est quand même très vivante.
Mais il y a des choses très justes quand même sur la vieillesse.
Et je voulais. Bien sûr qu'il y a de la tendresse. Je voulais pas appuyer le côté dramatique, de cette avancée vers la vieillesse, vers la solitude, vers des choses très difficiles. Donc moi, je me suis aussi amusé à avoir plein de détails dans les maisons de retraite qui puissent apporter cette fantaisie. Mais c'est vrai qu'il y a des choses vraies. Je mets un menu quand je parle de la salade iceberg.
Vous le reproduisez d'ailleurs.
Quand on dit que la vieillesse est un naufrage, effectivement, c'est un peu inquiétant de manger une salade iceberg, moi je trouve. il y a des trucs tellement marrants. Et du coup, je reçois plein de courriers. Je pourrais faire une anthologie des maisons de retraite. Il y a quelqu'un m'a parlé d'une maison de retraite où le premier étage c'était les Bahamas et le deuxième les Antilles. Et donc, il y a les petits vieux avec leur déambulateur. Tu vas où, toi? Je vais aux Antilles. Il y a une poésie comme ça, tellement bien.
Mais vous l'accueillez, David Funkenos. Faut aussi,
Mais parce que je veux pas sombrer, parce que c'est extrêmement violent, c'est douloureux. On se retrouve dans une situation où je raconte tout ça. Dans le livre, c'est des moments de vie où on est pratiquement dans l'incapacité d'aider les gens qu'on aime le plus. Moi, j'ai tellement aimé mes grands-parents, mais passé 90 ans, j'avais plus aucune discussion avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire. C'est pas la peine vraiment de parler de tout ça.
On ne trouve pas les mots justes, dites-vous à un moment. On n'arrive pas à trouver l'attitude.
Il n'y a pas d'attitude, alors je crois qu'il faut simplement être là. Ouais. Maintenant, c'est difficile. Parfois, une heure nous paraît tellement long. Alors que je trouve ça terrible de s'ennuyer avec des gens qu'on aime. Enfin, il y a plein de situations qui. Et donc, après, j'ai voulu aussi voir à travers cette grand-mère ne pas appuyer tout ça. Donc, elle a encore plein de vie. Il y a cette phrase que je cite de René Char qui dit « Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir ». Et donc elle a cette blessure d'enfance et elle doit achever quelque chose qu'elle n'a pas fini dans son enfance. Et donc elle va fuir. Une chose très marrante, c'est que le jour où j'ai sorti sans trop raconter le livre, mais le jour où j'ai publié le livre, le 18 août, le matin, j'écoute la radio. Le même jour, et sur France Inter, il y avait une histoire d'une grand-mère qui avait fugué de la maison de retraite, aidée par son petit-fils. Le jour de la sortie du livre. Alors c'est pas tout à fait l'histoire du livre, mais il y a quand même une similitude. Et puis elle a été rattrapée, et puis elle a dit je recommencerai. Et j'adore. Mais il y a tout un truc en ce moment avec les vieux qui font des trucs un peu.
Il y a eu un
fou.
Film, il y a eu des.
Non, mais il y a des vieilles qui braquent des banques en ce moment. Vous avez pas vu ça?
Si,
j'adore.
Ouais.
Je trouve ça.
Il y a de nouveaux gangs, les gangs seniors, quoi.
Ouais.
Les gangs seniors. Alors, vous avez le sens de la formule, quand même. Ça plaît bien. Attendre quelqu'un, c'est le faire exister avant son apparition. C'est un peu ce que j'ai fait en lisant, en vous attendant tout à l'heure.
Je vous félicite. C'est la meilleure phrase du livre. Vous l'avez. Ça fait deux mois que je fais de la promo. Personne ne l'avait encore.
Non, ça m'étonnerait.
Il y a du très haut niveau là. Non, j'aime beaucoup. On m'en a jamais parlé. Comme m'a présenté madame, c'est vrai que j'ai été invité dans beaucoup d'émissions de radio, de télé, parfois trop, parfois. C'est compliqué le rapport bon, ouais. Bref. Et donc, et ça, on m'a jamais. J'aime beaucoup cette phrase.
Fait je penser suis, à ça
je suis très fier de cette
s'habiller,
phrase.
S'habiller le cœur quand on a dans quelqu'un.
Ah bah non, mais si vous dites qu'après je l'ai pompé.
Non, c'est dans la même veine. C'est dans la même veine.
Mais hein. Je trouve que, en fait, j'ai mon livre précédent, c'était un livre sur John Lennon.
Oui.
Et je parlais parce que j'ai toujours été fasciné par l'histoire entre John Lennon et Yoko Ono, cette sorte de fusion. À partir du moment où elle est rentrée dans sa vie, il a décidé qu'il ne formait plus qu'une seule personne, ce qui a rendu fou les Beatles parce qu'elle était toujours là. Il formait la même personne. Et dans les écrits de Lennon, il parle tellement de cette femme qu'il rêve de rencontrer qu'on a l'impression qu'elle existe avant même qu'elle arrive dans sa vie. Et c'est vrai que attendre vraiment quelqu'un, c'est lui donner une forme d'existence avant son arrivée. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir le sentiment de pas de coup de foudre ou de sentiment de déjà vu. Enfin, la personne, elle a déjà été fantasmée, je trouve, parfois. Mmh. Et quand il y a la rencontre entre le fantasme
et le réel,
C'est, ça arrive très rarement dans une vie, hein, je crois. Non?
Je sais pas. J'ai une vie un peu plus longue que la vôtre, c'est déjà.
Après tout, il n'y a pas vraiment qu'il y a que vous qui posez des questions.
Non, vous pouvez aussi poser des questions. Je vous signale tout à l'heure que vous devrez lire un petit passage du livre, mais on l'oublie pas. Alors la vie, la mort mêlée, ça, vous, ça c'est des choses qui vous touchent. Hein. C'est pas jamais tout blanc, jamais tout noir. Hein. C'est pas de manichéisme dans vos remarques.
Mais ça nous... Non, pas de manichéisme. Toutes les choses sont beaucoup trop complexes. Il n'y a pas de vérité. J'aime pas non plus les sentences. Je crois qu'on est tous, on est tous parfois des ratages, des brouillons, des incertitudes. Donc, par contre. Lier la vie, et la... non, en tout cas, je trouve qu'il y a toujours, d'une manière assez classique, hein, assez cliché, des pulsions de vie et d'énergie très fortes quand on est, voilà, au rivage de la mort ou de la maladie de nos proches, ça peut nous abattre, mais en même temps, ça peut nous donner des pulsions très fortes de vie. Et je trouve que le jeune narrateur, voilà, d'accompagner vraiment au plus proche ses grands-parents, ça modifie son rapport à la sensualité, aux femmes d'une manière générale, à la vie. Et ça lui donne une dimension plus, sans être dans la jouissance du tout, hein, excessive, hein, mais il y a une façon tout simplement de... Il n'est pas du tout dans la boulimie, hein, mais il est dans la recherche de la beauté, quoi, tout simplement. Ce qui est transmis par sa grand-mère. Effectivement, elle dit on devrait mourir par la beauté. Et c'est vrai que c'est terrible parfois de voir visuellement les maisons de retraite. Là, je parle, il y a une longue partie dans le livre sur un tableau. Non, mais ça, c'est pas possible. Ils mettent ces tableaux parfois dans les maisons de retraite. J'ai reçu un courrier aussi avec une composition florale, mais c'est pas possible.
À vous désespérer, quoi.
Et là, il y a un tableau avec une vache. Mais une vache.
Une vraie, quoi.
Mais pourquoi un tableau avec une tête de vache dans une maison de retraite? En plus, on ne sait pas si c'est un gamin qui a ou un génie ou un élève de CP qui a peint ça.
Celle-là, vous l'avez vraiment vue.
Ah, vous voulez savoir vraiment ce qui est vrai, vous, hein.
En tout cas, des choses importantes.
En tout cas, je me dis toujours, il y a un intérêt à tout ce qu'on vit. Même ce qui est bizarre, même ce qui est laid. Et c'est vrai que quand on est dans une maison de retraite, tout est laid et tout va mal. Parfois, pour se remonter le moral, ils vont voir le tableau de la vache. Parce que c'est un degré supérieur dans le n'importe quoi et la laideur. Donc, quelque part, tout est relatif. Et ils vont, pour se remonter le moral, ils vont, allez, viens, on va voir la vache.
On fait une expédition et on va.
Ils vont même aller très loin. Ouais. Bon, je peux pas tout raconter, mais.
Ouais. Je voulais pas le dire, oui.
On pouvait pas laisser le mec qui a peint cette croûte comme ça. Il fallait qu'on le retrouve. Donc, il va avoir une importance quand même.
Il va avoir une importance. Vous avez peut-être aussi, parce que je pensais un peu comment vous étiez en venant de Paris, dans le train, etc. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu journaliste aussi, vous captez autour de vous. Hein. Mais il me semble que l'écrivain, c'est un peu aussi, on a dit, un peu une éponge.
Oui, mais on est tous sauf journalistes.
On est tous journalistes.
Moi, je cherche pas à rendre les faits d'une manière, absolument. Je crois qu'il faut toujours avoir un prisme, une façon de voir les choses, du décalage. J'ai pas à les rendre dans l'immédiateté. Je les digère. Je serais absolument incapable de. Effectivement, Michel Fide, il m'a interviewé et il me disait qu'il y avait un côté reportage dans les maisons de retraite. J'ai dit, j'étais pas d'accord. Moi, je trouve que c'est pas du tout exhaustif. C'est même pas une dénonciation. C'est même pas un jugement. C'est presque une promenade quelque part.
Est-ce qu'on peut dire un mot de votre écriture ou de la façon de rédiger?
On peut.
Dans un autre domaine, bon, on a eu ici Catherine Pancol, hein, qui disait qu'elle s'asseyait pour écrire tous les jours, elle s'asseyait à 11h et elle ne bouge pas de sa chaise jusqu'à 17h. Bon, alors elle se lève parfois pour prendre un jus de citron, etc. Et elle, vraiment, pour elle, c'est quand elle est sur un bouquin, hein, bon, et quand elle cale, elle sort pour voir des choses.
11h, 17h? Oui. Sur une chaise?
Enfin, elle a une femme de ménage.
Remarque, hein, qui lui apporte pas mal de livres, citron, dans des petits coussins sympas.
Non, ça dure 3 mois.
À 3 mois.
Ouais. Non, votre écriture, c'est vous qui êtes qui nous intéressez aujourd'hui. C'est, vous prenez, moi, vous prenez des notes.
Moi, je commence à 10h30, hein, je commence avant elle. Non.
J'écrivais sur une certaine, un laps de temps, ou c'est sur...
J'écris, il y a plusieurs, souvent j'écris le matin. Moi, j'aime bien, je suis très matinal.
Très tôt.
Parfois, on aime bien dire... Non, pas très tôt. Hein. Pourquoi? Non, j'accompagne mon fils à l'école, et puis vers 9h, j'aime bien écrire. Je peux pas écrire autant. Je peux pas écrire de 11h à 17h. Souvent, je mets beaucoup d'énergie et je peux pas écrire plus de 2h par jour. Après, je pense très honnêtement que quand on est dans un roman, quand on est obsédé par un roman, il n'y a pas d'heure à ça. On l'écrit tout le temps. Quand on commence à avoir un roman qui nous cogne dans la tête et qui s'écrit, la délicatesse, je sais que je l'écrivais même en dormant. Il y avait toujours une part de ma vie qui voilà, le roman continuait malgré nous. Hein. Donc je crois pas qu'on puisse parler d'horaire, de... Non. Après, j'aime beaucoup voyager, écrire dans les trains, dans les... j'aime bien, j'ai pas besoin d'avoir un lieu précis. Non.
Les trains, un café, un hôtel.
J'ai écrit une page là dans le train aujourd'hui. Ah. Alors que j'ai arrêté d'écrire, j'ai décidé de faire une petite
après,
pause.
Après, c'est le dernier que vous ayez écrit, celui-ci. Il y en a un autre,
oui,
en haut.
D'accord. Non, j'écris, j'ai pas de... Mais j'avais envie d'écrire une page. Mmh.
D'accord. Et on peut savoir un peu sur quoi, cette première...
Bon, non, c'est, non, j'ai pas dit, c'est même pas, je me suis même pas dit encore. Mais c'est l'histoire d'un mec qui a mal au dos. Je me suis dit que ça, c'était un sujet formidable.
Le mal de dos, aujourd'hui.
On n'en parle pas assez, quoi.
Dans les souvenirs, il y a...
Voilà, vous voyez, un intérêt très fort.
Ça marche. Dans les souvenirs, il y a les trois âges. Hein. Il y a, bon, évidemment, il y a la grand-mère qui est assez âgée. Puis on revient ensuite à aux parents du narrateur. Et puis il y aura son fils. Il y aura son fils aussi après. Hein.
On va pas pour moi, c'est vrai que c'est un livre sur les souvenirs, sur la mémoire d'une manière générale. On parlera peut-être des interchapitres et
oui,
de tout ce qu'il y a dans le livre. Voilà, c'est vraiment la thématique du livre. Mais pour moi, c'était un livre extrêmement rond. J'avais l'idée du début, la fin, tout simplement d'un ce qu'on vit tous, c'est-à-dire des choses cycliques. L'histoire d'un enfant qui est accompagné par son grand-père pour voir Guignol au jardin du Luxembourg et le livre se termine par lui-même adulte qui accompagne son fils au même endroit, ce qui lui permet d'avoir une connexion tellement immédiate avec le souvenir, avec sa propre enfance. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand on a des enfants, on revit notre enfance quelque part. Mmh. Et ce sont les deux moments du livre que j'avais en tête au début.
Il y a une belle formule, hein, aussi, avec une belle phrase. Et un jour, j'aurai leur âge, hein, vous parlez de personnes âgées. Ici, je marchais à travers qui je serais.
Hein, ben oui, quand on est dans une maison de retraite, de toute façon, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est notre destination aussi. C'est pas du tout dramatique. Mais il y a une... Je sais pas, moi j'ai mis du temps à passer en fait, à passer comme un cap dans mon esprit de voir les personnes âgées comme pas des figurants, mais des comme si nous vivions pas le même trajet, comme si nous n'étions pas dans le même train. Et je sais pas comment exprimer ça, mais il y a quelque chose qui s'est débloqué en moi. En fait, je les ai ramenés à mon âge. C'est-à-dire que je voyais à travers toutes ces personnes, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec certaines personnes, c'était parfois tellement mignon. J'avais une petite vieille, je lui ai demandé de me raconter des choses et elle avait 4 enfants et elle me parlait que de ses problèmes de comptabilité parce qu'elle avait travaillé elle était comptable dans une petite société et je me suis dit c'est toujours étonnant les souvenirs qu'on choisit, elle était très âgée quand même. Hein. Je trouve ça, enfin, je sais pas, il y a une forme de naïveté peut-être, hein, quand je raconte tout ça, mais il y avait aussi, Ah ben bon, moi aussi je me sens très vieux. Hein. J'ai vraiment un rapport très intime à la vieillesse. Mmh. Mmh.
Non, parce que c'est aussi, si vous posez cette question, quand vous dites je marche à travers qui je serai, c'est bon, vous aussi un jour vous serez.
Vous aussi.
Moi, plus vite que vous. Mais vous serez un peu comme.
Mais oui, mais
vous regardez ça sans peur. Enfin, vous l'envisagez.
Ah non, j'ai aucune. C'est pas une question de peur. La peur, c'est de rater le quotidien, c'est de rater le présent. Oui. La peur, c'est de pas être à la hauteur du présent. C'est d'accumuler des regrets ou des choses ratées. Après, la destination, elle peut pas être effroyable.
Alors là-dessus, vous parlez bien. Vous dites que quelqu'un, je sais plus quel personnage, veut redonner du présent à sa vie. Hein. C'est assez.
Ça, j'y crois beaucoup. Oui, ça, bien sûr. C'est tellement facile de se laisser embarquer par des choses, par les jours, par. Je pense que. C'est un livre vraiment où les personnages prennent leur destin en main. La grand-mère, elle prend son destin en main. Mmh. Elle décide de faire quelque chose d'incroyable dans le livre. Et je suis heureux pour elle. Et je suis heureux pour nous, parce que sinon, on se serait embêté, parce que on aurait passé tout le roman dans la maison de retraite, mais on avait envie de bouger au bout d'un moment. Mais je veux dire, il y a quand même une capacité à modifier d'une manière incessante le rapport aux gens, le rapport aux choses. Regarde, monsieur, il a le droit, il se lève, il part. Ouais. Et on a le droit d'agir sur son destin. On a le droit de dire, bon, j'en ai marre de l'écouter, celui-là. Et j'en tue moi. Non, mais je veux dire, moi, j'adore ça. J'adore cette liberté. J'adore, bien sûr, le présent, réintégrer le présent. C'était aussi le sujet de la délicatesse. Parce que le drame qu'elle vivait, le deuil, c'est une façon de s'extirper du présent. C'est une façon, la douleur, c'est une façon d'être dans l'incapacité de vivre le moment présent. Et tout le travail du livre, de la délicatesse, c'est de réintégrer le présent. C'est de réintégrer la capacité, voilà, de se dire, je suis en train de vivre le moment que je vis. C'est-à-dire de réintégrer son corps, quelque part. Beaucoup de gens vivent à côté de leur corps.
Bon, il y a beaucoup aussi d'humour, hein. Beaucoup d'humour.
Parce que là, je suis en train de plomber le truc.
Non, mais
moi, par exemple, pour moi, une rencontre.
La scène du commissariat, David Frankinos, on peut dire un petit mot. Sans tout développer sur la scène du commissariat. Vous savez, à un moment, la grand-mère s'échappe, on peut le dire, hein. Et avec le narrateur, avec son père.
Ben oui, mais en même temps, la vie est souvent cocasse. C'est vrai qu'on est à ce moment-là, je suis les situations. Il y a toujours une manière excitante pour un romancier de raconter des situations, de trouver des détails qui sont effectivement la grand-mère. On ne sait pas où elle est. Alors, d'abord, ils mettent des petites affichettes dans la rue, comme on fait pour un chat perdu. Ou, j'ai perdu ma grand-mère. Bon, on ne sait pas où elle est. Et puis finalement,
il y a un journaliste de François. Hein.
Ah, il y a François. Ça vous a plu, ça. Et finalement. Ils vont au commissariat. Parce que c'est quand même une disparition, c'est quand même une personne manquante. Et le commissaire, enfin le flic demande au père du narrateur, donc qui a à peu près 60 ans, il lui demande est-ce que votre mère est majeure? a priori, si c'est ma mère, elle est forcément majeure. Il dit on ne peut pas déclencher une alerte ou une enquête pour une personne qui n'est pas mineure.
Il voulait se cacher.
Mais au lieu de dire ça, il lui dit que votre mère est majeure, quoi. Donc on est parfois, de toute façon, l'administration, le dédale. On est rattrapé de manière générale par le burlesque. Mmh. À tout moment, on peut voir des choses. Moi, je regarde tellement les détails, ça me plaît tellement de voir.
C'est ce que je devinais quand je disais que dans le train, j'essayais de vous imaginer. Vous les captez, tous ces petits détails, ils sont importants pour vous.
Mais écrire, c'est alterner des moments de méditation, de solitude. Ouais. Et des moments où on a besoin de bouger, de voyager, de parler aux gens, de rencontrer, de vivre des choses. Parfois même, de vivre beaucoup de choses, d'être dans la liberté, pour accumuler de la compréhension, pour accumuler des détails, pour accumuler. Moi, je suis pas du tout un vampire romanesque. Vous pouvez passer une soirée avec moi, vous avez peu de chances d'être dans un roman. Je suis pas du tout quelqu'un qui essaie de voler les choses, hein. J'écris des livres de fiction. Je me nourris de sensations, je me nourris de choses. Mais voilà.
Ceci dit, vous nourrissez aussi de lecture, hein. Je crois que Belle de Seigneur, pour vous, ça compte beaucoup, hein, les Belles du Seigneur.
Non, c'est ce qui a marqué sur Wikipédia, effectivement.
que Belle du, je voue un culte à Belle du Seigneur, ce qui est pas tout à fait vrai, parce que c'est pas mon livre préféré de Cohen, mais Albert Cohen, oui, c'est un écrivain qui a été majeur pour moi. J'ai pas lu de livre avant 16 ans. Je suis pas du tout issu d'un milieu littéraire. Bon, j'ai vécu une grave opération, j'ai passé des mois à l'hôpital, et c'est vrai qu'après, tout ça, ça a éveillé beaucoup de choses en moi, et la littérature est venue. Moi, j'aime bien, je rencontre beaucoup les lycéens, là-bas, avec la tournée du concours des lycéens, ou d'une manière générale, et je leur dis, mais ce n'est pas grave de pas lire. Moi, j'ai pas lu un livre avant 16 ans, et regardez, c'est toute ma vie, la littérature. Quelque part, on peut pas forcer, les passions arrivent comme ça dans nos vies. Il faut avoir la chance de rencontrer des livres qui vont nous marquer, qui vont nous donner envie d'aimer les livres. Moi, il y a eu Albert Cohen, il y a eu Romain Gary, il y a eu Philippe Ross, il y a eu Milan Kundera, Dostoïevski, plein d'écrivains qui ont éveillé mon excitation et qui
vous nourrissent toujours.
Pour aimer la lecture, il faut trouver des livres qui nous donnent envie de lire et de lire un autre livre. Et moi, j'aime bien les livres généreux. C'est pour ça que dans mes livres, souvent, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses. J'aime bien que après le livre, moi, il y a par exemple, bon, le livre s'appelle Les Souvenirs parce que chaque personnage du livre est décrit à travers un souvenir. Je demande à chaque personnage de raconter un souvenir. Donc les personnages principaux, mais aussi les figurants, ceux qui apparaissent simplement dans le livre, et aussi tous les artistes que je cite. Donc c'est un livre où il y a des souvenirs de Modiano, de Fitzgerald, de Gainsbourg. J'ai même mis un souvenir de Alzheimer, puisque je parle de la maladie d'Alzheimer à un
Gaudi,
moment.
Gaudi, hein, qui est presque un voisin ici à Barcelone.
Donc, oui,
mais il faut dire ça. Ce sont des petites séquences qui viennent.
Ça peut donner envie d'aller écouter Gainsbourg, d'aller lire Modiano, voir une toile d'un peintre. Je parle de Nietzsche. C'est vrai que j'aime bien ça. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, cette forme de générosité. Je dis pas que les livres qui font pas ça sont pas généreux, mais qu'un livre soit un pont vers un autre livre. Donc il y a plein d'anecdotes. Bon, on apprend des trucs, ce qui est toujours bien. Si on n'aime pas le livre,
on apprend beaucoup de choses, même sur le 20e siècle. Vous évoquez trois étapes. C'est bien, on réfléchit aussi avec vos. Vous pouvez nous dire un petit peu ces trois étapes, c'est intéressant.
Ça me fait plaisir, ça aussi. On n'en a pas beaucoup parlé et vous avez trouvé le meilleur passage et la meilleure phrase du livre. Alors là, franchement...
Dis-je, on reviendra. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais c'est important, c'est vrai.
C'est vrai que c'est une réflexion qu'il y a dans le livre à un moment donné. Non, mais parfois on rentre pas toujours dans le fond des choses et c'est vrai qu'il y a aussi de la profondeur dans ce livre. C'est aussi un livre d'une intelligence remarquable. Et donc, quand parfois il m'arrive d'avoir une idée brillante, c'est bien de la souligner.
Oui, parce qu'on a dit que vous étiez léger aussi à côté de ça, vous le savez.
Oh là
ça
là
vous
a pas,
si vous, ça si vous l'avez vous... entendu, celle-là.
Ah bah, on m'a dit beaucoup de choses. Là, j'en ai pris pas mal. Bon, c'est normal, parce que bon... Enfin bon, bref.
Bon, en tout cas, ces trois...
Alors oui, non.
Ça, c'est bien,
alors,
ça. Parlez-nous un peu.
Alors, je, à un moment donné, voilà, je reviens sur les trois étapes, à mon sens, du 20e siècle. Ce qui fait que nous sommes extrêmement brouillés actuellement est lié à deux étapes. La première, ça se passe dans les années 30, avec le front populaire, avec les congés payés. C'est la première grande mutation du 20e siècle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a le droit au bonheur.
Aspiration au bonheur.
C'était une notion qui n'était pas vraiment envisageable au 19e siècle. Si vous lisez Zola, bref. Le début du bonheur, quelque part, le début des vacances, le début du temps libre, le début...
Congé payé.
Voilà, après, donc c'est vraiment une phase. Après, la deuxième phase, c'est au milieu des années 70.
Je connais ça.
Vous connaissez ? C'est l'étape de la possible remise en question de ce bonheur. C'est-à-dire, c'est vraiment une mutation où, voilà, l'adultère n'est plus un délit.
Et vous le notez, c'était dans la loi.
Jusqu'en 1975, l'adultère était un délit. On accepte l'avortement. Voilà. À ce moment-là, il y a un moment donné où on est libre de maîtriser ou pas notre bonheur. C'est-à-dire que la deuxième étape, on a le droit de porter un jugement sur notre vie.
Mon corps est à moi, vous vous rappelez? C'est
exactement. On a le droit d'émettre un jugement sur ce bonheur-là.
Ça, c'est la deuxième.
C'est magnifique. Je crois que là, j'ai chauffé ce jour-là, je pense. J'avais...
Non, mais vous voyez, ça...
Et non, mais vraiment. Et maintenant, je pense qu'on a accédé au bonheur, on a accédé à la, à la possible, comment dire, remise en doute de ce bonheur. Et donc, on est dans la liberté totale. On n'a plus du tout de contraintes, ni par rapport au bonheur, ni par rapport à la remise en cause de ce bonheur. Et donc, on est dans une maintenant, dans la troisième mutation, qui est la mutation de toutes les possibilités. Mmh. Et finalement, je ne sais pas où est la vérité de l'épanouissement, mais c'est une forme d'inquiétude aussi, ça. De pouvoir remettre en cause sa liberté, son bonheur. Quelque part, on est complètement volant maintenant.
Et vos personnages, les trois, hein, les trois âges, là.
Et donc, lui, il est le fruit de son époque.
Ils sont le fruit de son narrateur. Voilà, exactement. Ouais.
Bon, je l'ai mieux écrit que je l'ai raconté, là.
C'est mieux écrit, oui.
Elle était bien, ouais, là-dessus. Mais bon,
c'est pas quand même un cours de philo.
J'ai une grosse journée déjà derrière moi.
Alors, là, vous allez respirer. Respirez un grand coup, c'est bien, vous buvez un peu, parce que donc, on serait très heureux si vous nous lisiez. Vous savez, ça fait partie un petit peu de ces soirées. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure.
Le problème, c'est un peu plus cher.
Vous verrez donc, ça avec la maison Soramps. Hein. non, vous allez.
Alors
lire.
Moi, c'est pas. J'adore c'est pas discuter, trop. J'adore les échanges.
Ouais. Mais sinon, pas... je lis, c'est vous.
Ah bah oui, ah bah. Préférez. Enfin, peut-être que bon. Non,
c'est vous.
Voir,
c'est vous. Oui.
Vous aimez bien, mais c'est pas non plus.
Non, mais bien sûr qu'il aime bien. Mais c'est vous.
Non, mais vous voulez lire,
non. Non, je préférais que ce soit vous. Il faut redire un tout petit peu. Hein, on est juste après la fuite de la grand-mère.
Je vous laisse. Voilà. Moi, je suis très souple. Hein. Je fais ce qu'on me dit.
Prenez votre temps. Hein,
c'est toute la page ?
Oui, c'est toute la page.
Mais pas de main morte. L'idée de fuite m'a forcément replongé dans celle de ma grand-mère. Quand j'y pensais, j'étais traversé par le doute. J'avais systématiquement besoin de quelques secondes pour être certain que cette histoire de disparition était bien réelle. À plusieurs reprises, j'ai tenté de me mettre à sa place. Où est-ce que j'irais à son âge si je voulais fuir ? Difficile à imaginer. C'était compliqué de toucher mentalement cet âge-là, même si j'avais toujours eu un rapport très étroit à la vieillesse. À 16 ans, j'avais été opéré du cœur. Ce dont je souffrais n'advenait que chez des personnes âgées, et je me souviens parfaitement de l'expression du médecin quand il m'a dit « Vous devez être vieux ». J'y pensais souvent à ça, à cette sénescence qui me procurait une forme de lassitude chronique. J'évite de commenter au passage la sénilité de mes deux grandes passions, la soupe et la Suisse. Mais cette opération a surtout réveillé en moi la sensibilité qui me permet d'observer les mondes enfouis de la sensualité. Et si je suis là, à écrire, c'est uniquement parce que mon cœur a déraillé dans un dérapage des âges. Cette proximité avec la vieillesse et le lien qui m'unissait à ma grand-mère ne me permettait pas pour autant de penser à sa place. Je n'avais aucune idée de l'endroit où elle pouvait être. J'ai partagé cette interrogation avec Gérard et c'est là qu'il m'a répondu d'une manière si belle. À sa place, j'irai me réfugier dans un souvenir. Oui, c'est ce qu'il a dit, puis il a ajouté, j'irai dans un endroit où j'ai été heureux. À son âge, c'est sûrement ce que je ferai. En l'entendant, j'ai éprouvé une grande émotion. Il devait avoir raison. La fuite ne pouvait qu'avoir un lien avec une tentative de retrouver la beauté. C'est pas mal. Hein.
David Fuenquinos, Les souvenirs.
De l'injustice.
Hein. Les souvenirs chez Gallimard. Alors, justement, à propos de... Merci d'abord, merci. Et à propos de Gallimard, vous savez hein, que c'est toute une semaine ici. Il y a une exposition Gallimard à Montpellier. Vous savez,
oui, tout à fait.
À
c'est
Paris,
pour ça
d'abord.
Qu'on est aussi
et c'est pour ça que vous êtes là. Et donc, on dit la grande maison, non, pour chez Gallimard, je crois. On dit, cet éditeur, hein, je crois qu'on doit. Dominique est par là, je pense qu'on dit la grande maison. Hein, on dit la grande...
J'ai ça, jamais vous, entendu ça.
Être chez Gallimard, pour vous, c'est pas n'importe quoi. Quand même.
Bah non, racontez-moi. C'était un petit éditeur, je voulais lui donner un coup de main.
Et ça a
non,
marché.
Non, Gallimard, c'était un rêve pour moi. J'ai lu tant de livres que j'ai aimés chez Gallimard. Bien sûr, j'ai envoyé par la poste mon manuscrit à 5 maisons d'édition. Les 4 premières ont refusé. Puis un jour, j'ai reçu un coup de fil du comité de lecture de Gallimard. Alors que bon, j'avais oublié qu'il me restait Gallimard. Et donc, j'ai cru que c'était une blague.
C'était il y a 10 ans, ça, non?
C'était il y a 10 ans pile. Mon éditeur, Jean-Marie Laclaftine. Il y a eu un article il y a pas très longtemps d'ailleurs qui a ils ont ressorti comme ça pour un portrait ma note de lecture, je l'avais jamais vu. Et il a écrit c'est bordélique, c'est foutraque, mais ça vaut le coup d'essayer. Et voilà, donc c'est aussi une maison qui est extrêmement prestigieuse de par son histoire, de par ses auteurs, et en même temps elle se renouvelle sans cesse, elle tente des choses. C'est vrai que moi au début j'étais pas, c'était étonnant, mes premiers livres sont très fous, hein. C'était burlesque, il y avait des Polonais partout, enfin c'était n'importe quoi. Et
aujourd'hui il y a un peu de Suédois quand même, un peu plus.
Ouais, maintenant c'est plus. Et donc c'est une maison, voilà, qui par exemple là à la rentrée il y a encore un premier roman dont on parle beaucoup, et voilà, d'une manière générale elle se, ouais.
Parce que vous faites partie d'une grande famille, hein, là,
chez... Oui, alors moi, alors je suis arrivé chez Gallimard, j'ai fait mon service de presse le premier jour, j'étais entre Daniel Pénac et Benakista, et ils étaient hyper sympas, et c'était marrant. Bon, après, je vous dis pas que ça peut être très dur d'être chez Gallimard, attention, parce que il y a beaucoup d'auteurs.
Faut y rester aussi.
Non, mais il y a beaucoup d'auteurs, il y a de quoi se sentir petit. Moi, il y a 3 ans, j'ai publié Nos Séparations, j'appelle mon attaché de presse. Elle me dit, attends, on vient d'avoir le prix Nobel avec le Clésio, je te rappelle. Ah bon, bah d'accord, salut. Hein. Ouais. Après, je rappelle 2 jours après, elle me dit, attends, on a une polémique internationale avec Kundera. Bon, bah, c'est génial d'être chez Gallimard, mais bon, parfois...
Ah, il y a des grands, il y a des, bon, les, après, les anciens, les nouveaux.
Quand on a sa place, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais ça peut être difficile pour... Bon, moi, je les ai eu à l'usure, hein. C'est mon 10e livre. Non, mais moi, c'était un rêve. Hein.